c'est la journée de porte ouverte à l'École supérieure d'art et de design de Marseille Méditerranée, qu'on appelle aussi l'École des Beaux-Arts, qu'on appelle aussi les Beaux-Arts. Et nous sommes avec Pierre Houdard, son directeur, depuis
octobre 2017.
Un peu moins deux saisons environ. Bonjour Pierre.
Bonjour Jérôme. Oui, saison. C'est un bon terme, saison. Normalement, on ne dit pas saison pour les établissements d'enseignement supérieur. On dit année universitaire, on dit semestre, etc. Et en fait, une école comme celle-ci, ça fonctionne comme un établissement artistique avec des saisons. Et parfois, je me dis, ça fonctionne comme un restaurant. C'est-à-dire, il y a deux semestres, ce sont deux services, et avec des coups de feu. Et dans l'organisation au quotidien, c'est comme ça en fait qu'on travaille. C'est-à-dire, par exemple, un restaurateur, sauf s'il veut se planter, il ne reçoit pas les fournisseurs quand il est dans le coup de feu. Et cette semaine-là, par exemple, c'est une semaine de coup de feu, avec des workshops, avec Radio Grenouille qu'on accueille. Et merci d'être là, d'ailleurs.
Avec plaisir.
Et la journée porte ouverte aujourd'hui, puis on va enchaîner sur les concours, etc. On parle aussi de ruban pédagogique et artistique. Et en fait, une fois qu'on est parti, on commence en fin septembre et ça n'arrête plus, puisque même pendant les vacances, cette école elle est ouverte quasiment 365 jours sur 365. Même pendant les vacances, les étudiants viennent travailler. Et avec des moments de plus grande tension, au sens positif du terme.
Quand vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous avez eu envie de porter avec les équipes, que ce soit les équipes administratives, évidemment les enseignants, et puis les étudiants, les partenaires? Qu'est-ce qu'il y a eu dès le départ là, comme volonté?
Le sujet, mais c'était déjà une question que je me posais quand je travaillais au ministère de la Culture sur les arts plastiques, c'est est-ce qu'on est de notre temps? Parce que ça semble évident comme question, d'être de son temps. Et s'agissant d'une école, il vaut même qu'elle soit en avance sur son temps. Ces jeunes qu'on a, ils vont avoir une vie professionnelle qui va commencer dans quelques années et qui va être dans un monde qui est en devenir. Et eux-mêmes sont en devenir. Et donc, il ne faut pas qu'on les plante, quoi. Si j'ose m'exprimer ainsi. Il faut qu'on soit très attentif à tout ce qui se passe dans l'art, etc. Parce qu'eux, ils vont faire la création, l'art, le design de demain. Et c'est ça que j'ai envie de porter. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, avoir de l'exigence, de la rigueur, mais pas d'idéologie. En disant, ça c'est du bon art, ça c'est pas. C'est être exigeant sur la qualité, mais pas privilégier telle forme ou telle autre forme. Il y a eu des périodes dans les écoles d'art où on disait, non mais c'est bon, la peinture c'est terminé. En France d'ailleurs. Mais la peinture c'est pas du tout terminé. Il suffit d'aller dans des ateliers pour voir que les jeunes aujourd'hui qui viennent, donc ils peignent, ils font de la peinture figurative aussi, pas que ça. Et puis ils vont faire de la peinture figurative et puis de la robotique. Donc toutes les formes sont possibles. Et on a une équipe suffisamment souple, engagée, diverse, diversifiée, pour que ce soit possible, pour rendre ça possible.
Lorsqu'on parlait les jours précédents, hors micro, alors vous utilisez une expression, mais qu'on entend assez souvent, qui est l'expression « les étudiants au cœur ». Une fois qu'on a dit « les étudiants au cœur », comment ça s'incarne au quotidien, dans ces saisons?
C'est une bonne remarque, parce que normalement, dans ce type de discours institutionnel, quand on dit « les étudiants au cœur » ou « X au cœur de », c'est presque suspect. Ça veut dire qu'on ne le fait pas. Ou pas complètement. Les étudiants au cœur, si c'est vrai, ça doit se traduire par des faits. Ces faits, c'est par exemple les faire participer davantage au choix de l'école, à la gouvernance, etc. C'est-à-dire qu'on a des jeunes adultes et il ne faut pas qu'on les minore, c'est-à-dire qu'on les maintienne dans une minorité en disant bon, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ils ne savent pas ce qui est bon pour eux, etc. C'est pas vrai. Ils ont des points de vue, ils ont des idées. Ça m'avait frappé l'année dernière, on a travaillé sur l'option design. Les étudiants avaient des points de vue extrêmement pertinents sur ce qui convenait de faire pour améliorer les choses. Et donc ça, c'est ça. Donc ça se traduit par une modification de la gouvernance, par des réunions vie étudiante, par aussi le... Comment dire, on a installé des moniteurs, qui sont des monitrices. Et puis, les étudiants au cœur, ça veut dire aussi... il n'y a pas de discrimination. Ce n'est pas possible dans une école comme celle-ci, comme dans n'importe quelle école, mais qu'il y ait de discrimination sur le genre, sur l'origine géographique, sur la langue, sur quoi que ce soit. Et il faut aller même plus loin que ça, parce que au-delà de la discrimination, par exemple, c'est une école qui doit être sans intimidation, sans rapport de pouvoir qui serait désagréable. Une école où il faut qu'on soit bien, être les étudiants au cœur, ça veut dire une école où on aime bien venir, et on aime bien travailler, et où on est bien.
On entend dans ce que vous dites, alors ça peut paraître étonnant si on n'appartient pas à ces univers-là, que dans une école d'art, il pourrait y avoir de la discrimination.
On a eu des actualités dans d'autres écoles qui ont fait la une des journaux, enfin des médias. Par exemple, sur les rapports hommes-femmes, sur l'égalité homme-femme, sur le sexisme. Dans cette école, quand elle a été ouverte ici à Lumigny en 1968, il n'y avait pas une seule enseignante. Les chiffres encore aujourd'hui dans le monde de l'art, et c'est quelque chose qui est en train de venir. On est à l'époque post-MeToo, etc. Dans une école comme celle-ci, il faut être attentif aussi et ne pas ignorer, par exemple, que dans le monde de l'art, à la sortie, c'est 30% de femmes qui sont exposées dans les centres d'art. Donc il faut... et que quand on achète des œuvres dans les collections publiques, les œuvres des artistes femmes coûtent 30% de moins que les artistes hommes. Donc ça, la question de l'égalité homme-femme, dans une école où on a plus de 60% d'étudiantes, c'est un sujet dont on ne peut pas... Alors je ne dis pas que de la discrimination, je dis que personne ne peut se dédouaner d'une attention particulière à ces questions-là, aujourd'hui, et hier d'ailleurs, mais aujourd'hui encore moins.
Alors imaginons qu'il y ait des auditeurs ou des internautes qui ne soient jamais venus à l'école ou qui n'habitent pas les Bouches-du-Rhône ni Marseille. Depuis une dizaine de minutes, là, on est parti du patio de l'école. Nous avons gravi cette incroyable allée centrale. On est face à une fresque. On est dans un site, tout le monde le dit, on est dans un site incroyable, cette école d'art. Comment vous en parleriez à celui qui est à New York ou à Kinshasa ou à celui qui est à Gardanne ?
Alors déjà, on a fait une métaphore, on a gravi des échelons, parce que l'école est ce qu'on appelle dans le sud en restanque. C'est-à-dire sur des paliers successifs qui s'échelonnent le long d'une colline. En haut de la colline, il y a une fresque des années 60 d'un artiste céramiste, Édouard Pignon, à laquelle moi je suis attaché parce que dans ma banlieue parisienne natale, la première œuvre, pour moi moderne à l'époque, je disais ça dans ma tête de petit garçon, au fronton de la Maison des Jeunes et de la Culture, c'était une fresque d'Édouard Pignon. Et quand je suis arrivé pour passer l'audition, pour candidater à l'école, je suis monté comme ça, et comme c'est un type d'art qu'aujourd'hui on recommence à regarder, mais pendant toute une période on n'a pas regardé, quand j'ai vu la fresque, j'ai dit « Ah, il est là, c'est donc que je vais être nommé ici ». Donc ça a marché. Alors comment ? On est en Provence. C'est vraiment la Provence, il y a le Mont Puget. Alors le Mont Puget qui est un peu sur la gauche là-bas, je l'appelle notre petite Sainte Victoire. Et d'ailleurs au début quand je suis arrivé, je postais le Mont Puget et des amis parisiens me disaient « Ah, c'est la Sainte Victoire, c'est le Mont Puget ». Et pourquoi ici ? Parce que, en fait, le soir quand je rentre, je passe par là et je vais dans les ateliers, etc. Et là, c'est l'atelier, c'est un atelier à gauche, avec une grande hauteur sous plafond, il y a toujours des travaux d'étudiants de 4e ou 5e année, donc en phase projet, qui se déploient, ils sont à la fin de leurs études. Et c'est le passage par lequel, après une journée, qui est aussi une journée administrative, une journée où on parle budget, où on parle ressources humaines, où on fait pas que, quand on est directeur d'école d'art, on ne fait pas que de l'art. Et je me dis, oui, mais là, il y a ça qui se passe. Puis à droite, si vous avez l'atelier impression, qui a ce site particulier que lui aussi, c'est ce qu'est cette école, puisqu'il y a à la fois des presses qui datent du XVIIIe siècle, puisque l'école a été créée, notre ancêtre, l'Académie de peinture et de sculpture de Marseille, a été créée par les artistes marseillais en 1753. D'ailleurs, au départ, et comme une école gratuite pour les enfants pauvres. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut garder en tête. Et à la fois, vous avez des machines d'impression à commande numérique. C'est-à-dire on a tout ça. Et on a la même chose, le même parcours à l'atelier bois, où on va de la scie et du rabot jusqu'à la fraiseuse 3D. Et c'est ça, ce que je disais tout à l'heure au début de notre entretien. Il n'y a pas, aujourd'hui encore plus qu'hier, il ne faut pas dire ça c'est vieux, ça c'est passé, ça c'est foutu, ça c'est ringard, ça c'est ceci, c'est cela. Il faut être très attentif à ça, parce que d'abord on s'est trompé parfois, et puis c'est aux jeunes de nous dire dans quelle direction. Il faut regarder où ils vont et essayer de les guider et de leur donner des compétences. Alors ça... les compétences, ce n'est pas de l'académisme mal placé. C'est-à-dire que moi, dans mon projet, il y a le fait qu'on ne rentre pas par la technique, parce que ce n'est pas une école d'art appliqué, mais au fur et à mesure de sa pratique, on fait les choses bien, donc on acquiert des compétences. Si la pratique artistique conduit vers le bois, eh bien on va au début bricoler et puis acquérir des compétences en bois. Et que ça se soit écrit quelque part, que l'étudiant, et souvent il nous dit ça, ils ont besoin et envie de savoir, quand ils sortent de l'école, ce qu'ils et elles savent faire.
On entend, en vous écoutant, on a entendu, même si le mot n'a pas été évoqué, mais on a entendu parler aussi de la question des inégalités. J'aimerais terminer avec la question aussi, parce qu'on est à cet endroit-là, en cet instant-là, sur, avec ce nouveau siècle, il y a une autre grande problématique, outre les inégalités, qui est liée à cette problématique-là, c'est celle de l'environnement, de l'écologie. Comment l'école, elle travaille cette question, ces questions ?
Alors, quand on regarde cette école, donc, qui date des années 60, créée par, imaginée, pensée, dessinée et construite par un architecte qui a beaucoup travaillé à Marseille, qui est René Héger, et qu'après on se promène dans les calanques, puisque pour nos auditeurs qui ne sont pas d'ici, on est au pied, à l'entrée du parc national des Calanques, et la mer est à un quart d'heure à pied. L'école, quand on la voit de haut, elle disparaît dans le paysage. Et c'est une école, c'est un architecte qui a travaillé comme ça. Il faut imaginer que si on végétalisait les toits en terrasse, elle serait complètement invisible du haut. Bon. Alors, travailler cette question du développement durable, c'est aussi, d'une certaine façon, travailler à la responsabilité sociétale de l'école. C'est-à-dire qu'on est là. Longtemps, on a pollué. Donc on est très attentif à ne plus polluer déjà, parce qu'une école d'art, c'est une école qui utilise des produits chimiques, qui produit des déchets, qui... Alors on est un peu une passoire thermique, et ça, c'est le lot des bâtiments construits dans les années 60, et avec nos 5000 m² d'atelier, mais il y a eu de gros travaux qui ont été faits pour changer les huisseries, pour faire avoir un chauffage plus économe. Et après, c'est, alors si on redescendait, c'est les étudiants qui se sensibilisent, qui nous sensibilisent et nous qui les sensibilisons. Parce qu'il y a un compost qui est là-bas, c'est le début. Et je vais vous raconter une histoire. Là, il y a deux étudiantes qui sont en première année, donc très, très jeunes, la génération Z, comme on l'appelle, qui sont venues me voir, me dire voilà, il y en a une qui vient de Bretagne, une autre qui est plutôt de la Provence. Et elles viennent me voir, elles me disent voilà, en Bretagne, il y a un village, enfin, il y a un domaine avec des maisons en terre, Kerterre, et nous, on a un projet. On voudrait construire quelque chose en terre dans l'école pour en faire une serre pour commencer à cultiver des choses. Et là, d'ailleurs, là-bas, vous voyez, ils sont en train là, oui. de cultiver, vous de planter. Voyons. Avec toute la difficulté de planter quelque chose ici, c'est qui est de résister aux sangliers, puisque le parc des Calanques, c'est plein de sangliers. Et là, en ce moment, il y a une famille avec 5 petits marcassins qui viennent de naître, mais qui sont assez, assez laboureurs comme espèce. Et ça, je trouve ça formidable. Donc, et ça, c'est dire que ces jeunes femmes qui ont environ 18 ans viennent, disent, voilà, on a un projet. Alors qu'elles sont reparties en Bretagne, elles ont fait faire un devis pour une formation, quelqu'un qui viendrait former des étudiants ici. Alors je leur ai dit, vous allez chercher un lieu dans les hectares de parc où vous pourriez mettre une maison comme ça. Donc elles ont trouvé le lieu. Elles sont en train de monter leur projet. Elles vont constituer une équipe avec d'autres étudiants. Alors elles en ont parlé avec leur prof de design. Alors leurs profs leur ont dit, bon, alors on va lundi matin, on vous fait une petite conférence pour vous montrer d'autres expériences d'habitat en terre qui ont eu lieu par des architectes, des designers et des artistes. Et voilà, c'est ça la formation ici. C'est une formation interactive, participative. Ça, c'est l'exemple merveilleux. Moi, j'allais dire, il faut leur donner leur diplôme tout de suite, peut-être pas, mais elles ont déjà tout compris.
Samedi 2 mars 2019, une journée, une semaine de workshop à l'École supérieure d'art et de design Marseille-Méditerranée. Et puis la journée porte ouverte là depuis ce matin, depuis 9h et aujourd'hui jusqu'à 18h. Et nous étions, avec toute cette ascension que nous avons menée avec Pierre Houdard, son directeur. Un dernier mot, Pierre ?
Merci.
Merci Pierre Houdard.